Bonjour. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes un peu dispersés, hein? Mais ça ne fait rien. La qualité est là. J'aurais pu vous parler de Noël aujourd'hui, mais je pense que nous avions commencé quelque chose, une réflexion sur les béatitudes, et je vous invite à la poursuivre. Et d'abord, nous allons relire ce texte qui se trouve dans donc l'évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 3. Nous imaginons Jésus sur la montagne, puisqu'il est, on appelle l'ensemble de ce texte le sermon sur la montagne. Nous l'imaginons entouré de ses disciples et d'une foule qui écoute sa parole. Et il leur dit ceci, Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Nous avions déjà fait donc deux réflexions, deux séances, j'allais dire, sur les béatitudes. Et la première fois, nous avions vu cela dans ce texte dans son ensemble. Nous avions remarqué qu'il y a 8 béatitudes plus une. 8 qui dit « Heureux ceux qui font ceci, cela » et la 9e qui s'adresse à nous, à la deuxième personne, hein. « Heureux serez-vous si vous faites ceci ». Voilà. Et cette 9e béatitude nous incite à prendre les avertissements et les promesses des 8 premières pour nous. Nous avons vu que c'est bien l'annonce d'une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est là, le royaume où Christ règne, et il renverse les hiérarchies accablantes et injustes de notre monde. Heureux ceux que le monde déclare malheureux. Ceux-là ne sont pas abandonnés de Dieu comme on pourrait le croire, mais ils sont au contraire approuvés et bénis par Dieu. Nous avions souligné l'audace de Jésus qui ose affirmer à des gens tristes et pauvres et en pleurs, qu'ils osent leur affirmer qu'ils sont heureux. Le terme heureux ne désigne pas ici un sentiment de bonheur, mais une situation heureuse, une situation d'approbation divine, de bénédiction de la part de Dieu. C'est ce que nous avions fait la première fois, et puis pour la deuxième épisode, nous avions considéré que cet ensemble qui paraît assez simple à comprendre quand on le considère dans l'ensemble, en gros, est plus difficile à saisir dans le détail lorsqu'on essaie d'analyser un petit peu chaque phrase. Et nous avions donc choisi d'étudier l'une après l'autre les béatitudes. Et nous avions, lors de la deuxième réflexion, étudié les 3 premières. Et je vous invite à faire la suite aujourd'hui. Alors, comme pour la première fois, j'aurai besoin de votre aide. Et de temps en temps, je vous poserai des questions et je vous remercie de vos réponses. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voilà la 4e béatitude. Là, il est facile de voir la correspondance entre la condition et la promesse « Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés ». Ceux qui ont faim de justice seront comblés, rassasiés de cette justice qu'ils désirent tant. Mais là où j'ai besoin de votre aide, qu'est-ce que ça veut dire avoir faim et soif de justice? C'est-à-dire la foi. D'autres idées? Un peu plus de justice autour de nous, oui. Encore une autre idée? Oui, tout à fait. Une justice universelle. Alors, la justice, ça peut être trois choses. Ceux qui ont faim et soif de justice, ça peut être, il y a trois façons de comprendre. Comme l'a dit Cathy, ceux qui désirent un monde plus juste. Ceux qui souhaitent que les juges ne soient plus corrompus. Que les richesses soient réparties de façon plus équitable. Qu'il n'y ait plus d'oppression en raison de la race ou de la provenance d'une personne. Qu'il n'y ait plus d'inégalité entre ceux qui ne savent pas que faire de leur argent et ceux qui meurent de faim. Voilà. Il y a des personnes qui ont faim et soif de cette justice-là. Une justice mondiale, dirons-nous. Hein? Et puis, il y a une deuxième raison une deuxième façon de penser. Ceux qui pensent que la justice, c'est être en règle avec Dieu, soi-même. C'est notre propre justification de la part de Dieu qui nous déclare juste. Cette justice qui nous revêt, qui ne vient pas de nous, mais du Seigneur. Celle dont parle Paul dans l'Épître aux Romains, quand il dit au chapitre 5, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et puis, il y a une troisième façon de comprendre, c'est ceux qui pensent que la justice, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons pratiquer, c'est la façon dont nous devons nous conduire. C'est ceux qui veulent mettre en œuvre des actions justes, celles que Dieu nous demande. Vous connaissez aussi ce passage de l'Épître aux Éphésiens qui parle des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors voilà, nous avons trois possibilités, trois options. Dans ce texte, laquelle pensez-vous qu'il faut préférer? La première, dit Maillot. La deuxième, dit quelqu'un. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un ensemble des trois, comme dit Cathy, mais je pense quand même que Jésus, là, parle de la justice que nous devons pratiquer. Et si je le pense, c'est parce que le texte nous le dit. Si on lit un petit peu plus loin, ce terme de justice, Jésus l'emploie de nouveau. Et il dira, un petit peu plus loin, toujours dans Matthieu 5, « Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et encore un petit peu plus loin, au verset 20, il est dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. » Donc je pense que l'idée phare de Jésus, ça n'exclut pas les deux autres, hein, je suis d'accord avec toi Cathy. Mais l'idée phare de Jésus là, c'est la pratique de la justice, ce que nous devons faire lorsque nous sommes conduits par notre Seigneur. Et c'est le contraire de ce que notre monde nous promet. Vous savez que lors de la première séance, je vous avais lu des anti-béatitudes, celles qui viennent de la philosophie de notre monde. Et l'anti-béatitude qui correspondrait à celle-là dirait ceci, « Heureux ceux qui aiment l'injustice, car ils seront rassasiés. Hélas. En fait, comme dit Cathy, ces trois aspects peuvent très bien cohabiter. Sans illusion sur notre propre justice, nous pouvons demander à Dieu qu'il nous déclare juste par sa grâce. Et toujours sans illusion sous nos propres forces, nous pouvons nous efforcer de pratiquer les choses justes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions et espérer qu'en faisant cela, nous contribuerons à obtenir un monde plus juste, toujours sans illusion, sous nos forces, mais avec la certitude que si nous avons ce triple projet, si nous avons faim et soif de cette justice, de ces justices, on pourrait presque dire, de faire ce qui est juste, de vouloir la justice pour nous et pour notre monde, alors, dit Jésus, nous serons rassasiés. Encore faut-il que nous le désirions. Et peut-être que c'est une question que nous pouvons nous poser aussi quotidiennement, peut-être même plusieurs fois par jour, en disant, mais Seigneur, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qui est juste? Quelle est l'œuvre juste que tu as préparée maintenant pour que je la fasse? Aide-moi, Seigneur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les miséricordieux, qu'est-ce que ça veut dire, les miséricordieux? Ça ne vous inspire pas beaucoup, on dirait. C'est quoi un miséricordieux? Pardon? C'est celui qui pardonne. Oui, je crois que tu as tout à fait raison. Le terme en français signifie celui qui a un cœur, hein, cardia, cordium, celui qui a un cœur pour les miséreux, pour les misérables, et pour ceux qui sont dans la misère, pour ceux qui sont dans la misère physique, pour ceux qui sont dans la misère morale. La situation de la détresse morale. Et je crois que Bernard a tout à fait raison, c'est aussi celui qui sait pardonner, celui qui sait effacer l'ardoise. Et Jésus enseigne à plusieurs reprises la nécessité de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, en l'accompagnant, et c'est pas si fréquent que ça dans l'Écriture, à l'accompagnant presque d'une menace. Matthieu 6, verset 15, c'est un tout petit peu plus loin dans le discours de Jésus. « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Est-ce que nous savons pardonner? Et vous savez, cette idée, elle est reprise encore dans cette parabole de Matthieu 18. Vous savez, la parabole du serviteur impitoyable. Vous connaissez cette parabole, hein? Maître avait effacé à un de ses serviteurs une dette énorme, fabuleuse, plusieurs milliards. Et tout de suite après, ce serviteur, qui a été ainsi pardonné, si on peut dire, va menacer un de ses compagnons, il lui tord le cou, il le jette en prison parce qu'il lui doit 4 sous. Alors le roi se met en colère et exige le paiement total de la dette. Et Jésus conclut son histoire en disant « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Alors, mes chers amis, je vous pardonne. C'est d'autant plus facile que je n'ai pas de grief contre vous. C'est assez facile de pardonner dans ces conditions. C'est plus difficile lorsqu'il y a des griefs véritablement. Mais cette histoire du pardon, c'est un message très pesant dans l'enseignement de Jésus, et c'est un message qui nous gêne un peu quelque part. Sur 2 points, ça nous gêne. D'abord parce que c'est pas si simple que ça à faire. C'est pas très facile à appliquer, notamment quand on est en bisbille avec quelqu'un ou qu'on l'a été, c'est pas si facile que ça de dire qu'on pardonne et de le faire. Mais le deuxième point sur lequel moi ça me gêne un peu, c'est parce que je trouve que c'est difficile d'inclure cette pensée dans ce que nous savons du salut. Si nous devons pardonner pour être pardonnés, c'est plus la grâce. Ce n'est plus le régime de la grâce sans les œuvres. Hein, vous savez, cette fameuse définition que Paul donne, Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et puis voilà qu'après on nous dit, si vous pardonnez, vous ne pouvez pas être pardonné. Et quelque part, ça coince là. Comment vous y retrouvez-vous ? Ben, vous êtes comme moi, vous n'y retrouvez pas alors. Non ? Pas d'idée ? Voilà, je crois que, décidément, Cathy est pleine de ressources ce matin. N'oubliez pas que ce matin. Si nous lisons bien la parabole du serviteur impitoyable, avant de nous parler du serviteur impitoyable, elle nous parle d'abord d'un roi qui avait remis toute la dette à son serviteur. Elle nous parle d'abord de la grâce. Je crois qu'elle a surtout une fonction d'avertissement. Nous sommes sous la grâce de Dieu, et cette grâce de Dieu doit logiquement impliquer que nous nous comportions comme Dieu se comporte, à son image, et que si lui nous pardonne, que nous sachions aussi pardonner. Je crois que si quelqu'un s'aperçoit que dans sa vie de chrétien, il a de la difficulté à pardonner, je crois que ça doit être pour nous comme un signal d'alarme en disant, mais est-ce que ma vie de chrétien est vraiment une vie de chrétien ? Est-ce que vraiment je fais les œuvres de mon Père ? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'inspire ? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans l'amour. Alors aimez-moi, et je vous aimerai. Merci de votre amour, je sais que vous m'aimez. Et notre monde, lui, n'a pas la même philosophie. Et notre monde dit, heureux ceux qui ne pardonnent jamais, parce que comme ça, ils sont sûrs de jamais se faire avoir. Mais ce n'est pas la pensée de notre Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Littéralement, heureux les purs de cœur. Mais là encore, je vous pose la question, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, les purs de cœur ? Oui, je n'avais pas pensé à ça, pourquoi pas. Une autre opinion ? Pur de cœur, c'est sincère. Tout à fait. Alors, une fausse piste, je crois, qui a été pendant très longtemps la compréhension de l'Église, pendant des siècles et des siècles, c'est de considérer que la pureté de cœur, c'était de s'abstenir de tout désir sexuel. Et ça a été la pensée de l'Église pendant des siècles, qui a été très tôt influencée par des désirs, des idéaux d'ascèse, des idéaux qui ne venaient pas de la Bible, mais plutôt des penseurs grecs, et qui ont été très très vite englobés dans la vie d'Église, avec la peur de la femme, hein, c'était un peu diabolique la femme, hein. D'abord c'est Ève qui avait dialogué avec le serpent, hein. La peur de la sexualité, l'exaltation du célibat. Ce n'est certainement pas le sens ici, ni d'ailleurs ailleurs, mais ce n'est certainement pas le sens ici parce que le cœur, pour la pensée juive, c'est d'abord l'organe de la pensée, de la réflexion, et non pas celui des sentiments et de la sexualité. La pureté de cœur, je rejoins ce que disait Philippe, c'est de vouloir une chose, de poursuivre un but. Vous savez, dans une épître, Paul dit « Oubliant ce qui est derrière, je fais une chose, je cours vers le but que m'a assigné Jésus. » On pourrait traduire « Heureux ceux qui ont une pensée sans mélange. » Dans nos cœurs, il y a souvent la pensée de servir Dieu, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi mélangé à cela la pensée de notre respectabilité, la pensée d'un désir d'argent, de pouvoir? Toutes choses qui peuvent faire concurrence à notre désir de servir le Seigneur. Ceux qui ont donc un cœur, on pourrait dire, tout pour le Seigneur. J'aime bien l'adresse email des Chaussins. C'est tous pour un. Hein? Je suppose que c'est ça la signification. Hein? C'est tout pour le Seigneur. Voilà. Ceux qui ont donc un cœur tout pour le Seigneur, ils verront Dieu. Voir Dieu. Voir Jésus glorifié, c'est le privilège de voir un jour face à face notre Seigneur, sans crainte, de vivre avec lui, de côtoyer, d'être en quelque sorte à la cour du roi et d'être un de ses familiers. C'est le verset que nous rappelait Annie tout à l'heure, hein? Père, je veux que là où je serai, ils soient eux aussi. Et il voit ma gloire. Nous avons un chant qui dit « Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. » C'est aussi voir Dieu agir. Vous vous souvenez ce que Jésus avait dit à Marthe ? « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Notre monde dit si je vois, je croirai. Jésus répond, c'est l'inverse. Si tu crois, tu verras. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ici, ce n'est pas seulement les pacifiques, ce sont les pacificateurs, c'est-à-dire ceux qui font œuvre de paix. Vous vous souvenez sans doute de cette prière de saint François d'Assise que nous chantons parfois, « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, fais de nous des bâtisseurs d'amour. » Pour être pacificateur, pour répandre la paix autour de soi, il faut déjà être pacifique soi-même. Jacques, le petit frère du Seigneur, parle dans son épître, au chapitre 3, au verset 17, il parle de la sagesse d'en haut, qui est d'abord pure. On retrouve notre béatitude d'avant. Elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Le fruit de la justice et semée dans la paix par les artisans de paix. Il y a des personnes qui savent répandre la paix autour d'elles. Et dans les églises, comme dans tout groupe humain, mais peut-être dans les églises particulièrement, il est précieux d'avoir des personnes comme cela. Mais cela doit être recherché par tous. Comment, Seigneur, puis-je être un ouvrier de paix? Et ces ouvriers de paix-là, ils sont appelés fils de Dieu. Et pourquoi ils sont appelés fils de Dieu? Ben parce qu'ils ressemblent à leur père. Tel père, tel fils. Être ouvrier de paix, c'est être à l'image de notre Maître, de notre Seigneur, le Dieu de paix, le Dieu qui apporte la réconciliation. C'est ressembler un peu au Fils, le réconciliateur par excellence. Colossiens 1, 19 nous dit « Il a plu à Dieu de faire habiter en Christ toute la plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Alors laissons-nous séduire par cette béatitude, heureux ceux qui procurent la paix, et guidés par elle, en disant « Seigneur, que je sois vraiment parmi ceux qui procurent la paix. » Et non pas parmi ceux qui, je vous cite l'anti-béatitude, « heureux ceux qui excitent les querelles, car ils divisent pour mieux régner. » Que nous ne soyons pas comme cela. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. La dernière des 8 béatitudes, qui se termine par de la même manière que s'était terminée la première, hein, car le royaume des cieux est à eux, ce qui nous avait permis de déduire qu'il y avait là une inclusion, un tout, quelque chose qui se refermait sur lui-même. Le rapport au monde peut tourner à un conflit brutal contre ceux qui ne suivent pas les choix de notre monde. Le monde en veut à ceux qui ne sont pas conformes à lui, à ceux qui suivent un autre esprit que lui. Jésus a prévenu ses disciples qu'il fallait s'attendre à la persécution, puisque lui-même avait été persécuté. Jean 15, verset 20, Jésus dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » On peut être persécuté à des degrés divers. Cela peut varier selon les temps, selon les lieux. Et à notre époque, il est bien difficile, vous le savez, d'être un chrétien à certains endroits du monde. En Corée, en Chine, dans les pays musulmans, dans les pays hindouistes. Et pour nous, nous ne devons pas chercher la persécution pour avoir l'illusion que nous sommes fidèles, mais plutôt profiter de la liberté que nous avons dans notre pays. Et pourtant, même dans notre pays où l'on n'est pas persécuté, essayez de dire tout haut autour de vous, sur votre lieu de travail ou auprès d'amis non chrétiens. Essayez de dire tout haut, par exemple, que la Bible est contre l'homosexualité. Et vous allez voir des gens qui vont venir vous dire, avec une certaine violence, qu'il est intolérable que vous ne soyez pas plus tolérant. Et les moqueries vont suivre. Et cela, c'est déjà une persécution. Là encore, on se pose une petite question de vocabulaire. Que veut dire être persécuté à cause de la justice? Je vous pose la question. Alors qu'on pratique la justice, oui. Alors qu'on témoigne de choses justes.
Cette persécution par rapport à notre attitude envers
Oui. La réponse à la question se trouve dans la béatitude d'après, la neuvième. Pas symphonie, hein, mais béatitude. Hein. La neuvième où Jésus dit, persécuté, à cause de moi. Il est très tentant de voir deux façons un peu différentes, mais de dire la même chose. La justice, c'est dire des choses justes à propos de du juste par excellence, notre Seigneur. C'est aussi faire des choses justes inspirées par le juste, Jésus. Vous connaissez sans doute ce passage d'une épître de Jean qui dit « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste ». Notre monde, lui, nous dit « Heureux ceux qui font applaudir leur injustice, car le monde leur appartient. » Mais ce n'est pas le monde que nous voulons, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux qui nous est promis. Même si nous faisons partie des gens méprisés, moqués ou violemment persécutés. Ce qui nous introduit directement à la neuvième et dernière des béatitudes. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal ou de mensonges, d'après d'autres traductions, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Nous avions donc remarqué que cette neuvième béatitude est un peu à part puisqu'elle s'adresse à vous et à moi, à nous. Elle passe à la deuxième personne, elle nous interpelle. C'est plus simplement « heureux ceux qui », donc, ou c'est du domaine de l'information, j'allais dire. Hein, « Oui, Seigneur, tu nous informes que ceux qui font ceci, cela sont heureux ». Mais c'est quelque chose qui nous interpelle. À vous maintenant. C'est l'application à nous-mêmes de ce qui a été entendu. Et c'est là que ça devient difficile. L'Écriture est vraie en elle-même, mais elle doit être vraie pour nous, appliquée pour nous. Elle doit être la source d'inspiration de notre vie. Et c'est difficile. Et ça l'est encore plus quand il s'agit d'accepter la persécution, même en sachant que cela signifie que nous sommes heureux, du bon côté, bénis de Dieu. Bénis de Dieu, oui, mais persécutés. Et Jésus souligne que parmi ces persécutions, il y a la calomnie, l'insulte. Cela, nous le connaissons, nous le remarquons pour nous le remarquons aussi pour certains de nos frères. Vous n'avez qu'à écouter un journal télévisé qui évoque les églises américaines, par exemple, pour voir avec quelle moquerie on parle de nos frères et de nos sœurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas peur de se démarquer. Pourtant, ce qui compte, c'est ce que nous sommes aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas ce que nous sommes aux yeux des hommes qui compte. Mais nous aimons bien quand même notre propre image. Nous aimons bien notre, respectabilité et puis faire en sorte de la sauvegarder. Cette persécution, nous dit Jésus, nous associe au cortège des témoins fidèles. Des générations de témoins, d'hommes et de femmes de Dieu, des prophètes qui ont subi les mêmes persécutions. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés, dit Jésus. Si vous êtes persécuté, c'est parce que vous êtes un prophète. Cela doit nous rassurer. Et nous inclure dans ce passage, vous connaissez Hébreux 12, verset 1. Il y a Hébreux 11 avant qui détaille tous les héros de la foi et Hébreux 12 qui conclut « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et il s'est assis à la droite de Dieu. Finalement, comme nous l'avions vu la première fois, celui qui a le plus suivi les béatitudes, c'est Jésus lui-même. Il a supporté la persécution, il a méprisé la honte, les calomnies, les insultes, et il s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Ne nous décourageons pas lorsque des moqueries viennent, lorsque l'incompréhension est là. Parce que Jésus nous a avertis, nous serons persécutés si nous sommes fidèles. Mais aussi, notre récompense sera grande dans les cieux. Et pour terminer, je vous rappelle encore ce verset de Jean 13, verset 17. Heureux êtes-vous si vous savez ces choses et si vous les pratiquez. Seigneur, nous nous sentons bien faibles, bien injustes, bien impurs, bien infidèles. Mais Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur toi. Et nous te demandons, Seigneur, que nous soyons des hommes de paix, que nous soyons des gens qui pardonnent, que nous soyons des gens qui ont le cœur pur, qui te mettent en premier dans leurs préoccupations, que nous sachions aussi supporter les moqueries et la persécution. Et Seigneur, en retour, tu nous promets des choses merveilleuses, de voir Dieu, d'être pour toujours avec toi dans le royaume des cieux. Merci pour cette récompense que nous ne méritons pas, mais que toi tu nous donnes. Amen.